Oui, Bardo Wever est Premier ministre de la Belgique, mais oui, il souhaitera toujours un peu plus de Flandre indépendante.
La première.
Donc je crois qu'à un moment donné, Bardo Wever a dû se rendre compte du caractère un peu illusoire, chimérique, de ses rêves d'indépendance pour la Flandre.
Les clés.
La Belgique est pour lui un choix rationnel, subi, mais c'est pas un choix de cœur.
Arnaud Reussen.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés. Pour compléter notre série Radioscopie du paysage politique belge, un an après la mise en place du gouvernement Arizona, on a décidé de vous reposter cet épisode des Clés réalisé en décembre dernier et consacré à Bardo Wever, le nationaliste flamand, l'homme fort de la NVA, parti indépendantiste, devenu aujourd'hui Premier ministre de tous les Belges. Alors dans ce numéro, on s'interroge sur cette question. Bardo Wever a-t-il changé? A-t-il tourné le dos à ses rêves de construire une république flamande? Ou bien le passage par le 16 rue de la Loi n'est-il qu'une étape dans ce projet? Eh bien, on a 27 minutes pour tenter d'y voir clair.
La première, les clés.
Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence ici, nombreuse. Ce n'est pas la première fois que je m'exprime devant des milliers de personnes, mais c'est la première fois que je le fais en français. Ce qui n'est pas mon point fort. Oui, merci. Mais je dois avouer que ce n'est pas mon point fort. J'ai honte de ne pas être parfaitement bilingue. En fait, la Flandre est en train de perdre cette capacité et c'est vraiment dommage.
Oui, c'était les premiers mots de Bardo Wever le 1er décembre dernier à Beaux-Arts, lors des grandes conférences catholiques. Devant une salle comble, remplie pour l'essentiel de spectateurs et spectatrices francophones, le Premier ministre est venu surtout faire un état des lieux de la Belgique et expliquer, slide à l'appui, pourquoi selon lui il y a lieu de réformer pour s'attaquer au déficit très important que connaît notre pays et à la croissance continue de sa dette.
La politique inchangée, la dette augmenterait pour dépasser 120% du PIB en 2030. Cette évolution n'est donc pas soutenable à moyen terme. On peut contracter des dettes pour investir.
En tout, 50 minutes d'exposé, puis une heure d'échange avec le rédacteur en chef du quotidien La Libre, Dorian de Meus, jalonné de petites saillies dans le style caractéristique pince sans rire qu'affectionne Bardo Wever.
Je suis content de ce que je peux faire et je suis, comme vous le savez, un peu stoïque. Donc montrer des émotions ouvertement, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais franchement, est-ce que vous avez vu De Gaulle? Est-ce que vous avez des photos de Gaulle où il éclate de rire? J'en ai pas vu beaucoup. Hein. Merci beaucoup.
La conférence s'est ponctuée carrément par une standing ovation. Et à la sortie, les francophones conquis étaient nombreux, comme ces spectateurs interrogés par nos collègues de la VRT.
C'est très impressionnant.
Pourquoi?
Parce que c'est un monsieur intelligent et qui ne fait pas des bouffes. Il appelle un chat, quoi.
La Belgique est en de bonnes mains avec Bardo Wever?
Je pense. Je pense qu'il y aura en ce moment... pas une meilleure personne qui oserait faire des choses comme lui.
Il y a 10 ou 20 ans, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu dire ça. Hein?
Non, c'est vrai.
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis.
Effectivement, ces réactions ont de quoi surprendre. Surtout si l'on s'en réfère à l'image de Bardo Wever chez nous ces 20 dernières années. Le Bardo Wever qui débarquait devant les ascenseurs pour bateaux de Strépitieux avec plusieurs semi-remorques remplies de billets de banque pour symboliser les milliards de transferts de la Flandre vers la Wallonie. Le Bardo Wever qui, pendant les négociations d'une coalition orange-bleue en 2007 à Val-Duchesse, se félicitait du blocage politique au fédéral.
On ne peut plus arriver à former un gouvernement belge. Pour moi, pas de problème, hein, pas de problème du tout.
C'est une période bonne pour moi, hein, parce que chaque jour, il y a plus de séparatistes en Flandre.
Le même Bardo Wever, qui traitait aussi les Wallons de junkies drogués à l'argent public, vivant au crochet de la Flandre et qui laissait planer le doute sur une possible alliance un jour avec le Vlaams Belang. Mais voilà, aux dernières élections, Bart De Wever a claqué la porte au nez du Belang. Il a pris le costume du gestionnaire, raisonnable et rigoureux pour négocier un accord de gouvernement et endosser le rôle de Premier ministre, ce qui l'a conduit à même jurer fidélité au roi et aux lois du peuple belge. Alors, Bart De Wever a-t-il tourné le dos à son nationalisme ? Non, il explique que ça reste son ADN politique. Et quand notre confrère Dorian de Meus le questionne sur le sujet, il explique que c'est le résultat des dernières élections qui l'a conduit à jouer la carte de la Belgique fédérale.
En 2024, on a bien vu un résultat étonnant. Et tout à coup, au fédéral, c'est possible de mener une politique de redressement économique. Donc, il faut saisir cette opportunité. C'est Bismarck qui a dit « la politique, c'est l'art du possible et non du souhaitable ». Donc, il faut faire le faisable et pas attendre le souhaitable. Et je pense que j'ai toujours dit, je suis pas un énergumène, je suis pas quelqu'un qui pense que la Flandre est un but en soi. Ce n'est qu'un instrument pour servir à la démocratie, à la souveraineté du peuple. Et si on est capable de servir son peuple au niveau fédéral, il faut le faire.
L'actuel Premier ministre belge garde donc bien les intérêts de la Flandre dans le viseur. Quand il parle de son peuple, on entend bien que c'est de la Flandre qu'il parle. Alors, jusqu'à quel point Bart De Wever a-t-il changé ? Est-il le Premier ministre de tous les Belges ? C'est la question que l'on va explorer à présent. Voilà, une Brabançonne que n'aurait pas fredonné Bart De Wever, sans doute, si on la lui avait diffusée à la fin de sa récente conférence. Bonjour Karel Verhoeven.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef du grand quotidien flamand De Standaard, qui vient tout juste d'ailleurs de lancer une édition numérique en français, donc accessible aussi aux francophones. Une petite question d'abord sur ce qu'on vient d'entendre. Ça vous a surpris, vous, une standing ovation de la part d'un public entièrement francophone pour Bart De Wever et tous ces échos positifs à la sortie de cette conférence ?
Oui, ça a été quand même étonnant. C'est difficile de trouver une audience qui est plus éloignée du nationalisme flamand. Si on devrait chercher une audience en Belgique qui était opposant ou qui était l'opposant pour les nationalistes flamands, c'est bien la bourgeoisie francophone à Bruxelles qui tenait tout le pouvoir national. Et le voilà, à l'aise, comme il était chez lui, un peu nerveux au début, mais comme l'audience lui a pris dans les bras, c'est quand même étonnant. Aussi pour eux, pour lui et pour eux.
Dès le début de cette conférence, on sent bien que la salle est acquise. Vous expliquez ça comment, vous ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, chez ce public-là en particulier, parce que vous faites bien de le dire, c'est sans doute pas tous les francophones, hein, c'est une certaine catégorie de population, c'est à Bruxelles, mais qu'est-ce que Bart De Wever parvient à toucher, à rassurer, à votre avis, chez ces gens-là, pour qu'aujourd'hui, ils estiment, sans doute pas tous, mais quand même certains qu'on a entendu, que c'est l'homme de la situation, que c'est le Premier ministre qu'il faut pour la Belgique aujourd'hui ?
Je crois qu'il a pu dire au grand public, pas seulement aux flamands, mais aussi aux francophones, qu'il est un homme sérieux. C'est ça. Et il a changé. Il faut pas sous-estimer le changement qu'il a subi, même avant les dernières élections. Et aux nuits de cette élection, il a dit « Moi, j'ai une autre position maintenant. Mon parti a changé. Nous sommes dans un autre jeu. » Et je crois que les citoyens de la Belgique, pas seulement de la Flandre, ont bien compris que oui, en effet, on avait besoin d'un tel homme politique dans la situation où on est.
Conquis par son sérieux, par son franc-parler aussi, on l'a entendu plusieurs fois, on a entendu, il appelle un chat, ça c'est le style Bart De Wever, j'imagine, depuis longtemps en Flandre, mais que les francophones découvrent sans
doute. En Flandre, il était encore plus cassant. Et parfois plus amer. Et
il arrondit un peu les angles aujourd'hui.
Ah oui, certainement, certainement. Il était en Flandre aussi toujours le Carlimero. Il avait toujours, il y avait une opposition. Il n'était jamais compris.
Un peu en victime aussi, qui ne peut pas faire ce qu'il voudrait faire.
Ses adversaires. il a jeté tout ça. Il joue maintenant dans un niveau de Dahan, grand homme d'État. Et il s'est libéré de beaucoup de ses complexes. Il est maintenant le vainqueur. Il est un homme et un premier ministre avec du pouvoir. Et on n'a pas vu ça en Belgique depuis beaucoup d'années.
Vous citez Jean-Luc Dehaene, c'est une référence qui est faite depuis quelque temps maintenant. C'est une vraie référence pour Bart De Wever lui-même, Jean-Luc Dehaene, ancien premier ministre du CVP à l'époque, hein, parti devenu le CDNV, donc les chrétiens démocrates flamands. La presse utilise de plus en plus ce positionnement un peu dans une forme de filiation de Jean-Luc Dehaene. Est-ce que lui-même se réclame de ça?
Oui, il fait les allusions là-dessus. Pour lui, c'est très utile. D'abord, c'est pas l'idéologie de Dehaene qu'il réclame. C'est plutôt la place dans le panthéon belge, politique belge.
Mm-hmm. La stature place, d'homme d'État.
Statue de grand homme d'État qui a fait des travaux herculiens, qui a pris l'intérêt du pays en main et a fait avancer l'histoire. Donc, c'est sa place dans l'histoire qui est importante pour Bart De Wever. C'est ça, pour le moment, qui le guide.
Et c'est à cet aspect-là de Jean-Luc Dehaene qu'il veut se référer. Quand vous dites les grands travaux, c'est le moment où on a fait rentrer la Belgique dans la monnaie unique, notamment, ce qui a été aussi un grand travail sur les finances publiques à l'époque. Et on est un peu dans un contexte aussi où on doit faire beaucoup de boulot de ce côté-là aujourd'hui. Avec nous, Baptiste Tupin aussi. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Vous êtes journaliste politique ici à la rédaction. Vous suivez la politique nationale, la politique flamande aussi. Vous l'expliquez comment, vous, le fait qu'aujourd'hui, une partie, en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit tout le public francophone, on n'a pas vraiment de sondage là-dessus, mais que quand même, une partie importante des francophones semble donner un vrai crédit aujourd'hui à Bart De Wever, à le reconnaître comme leur vrai Premier ministre, en étant beaucoup moins inquiet, on a l'impression, qu'on ne l'était il y a quelques années par rapport au profil du personnage.
Alors si on reprend ce public en particulier, celui des grandes conférences catholiques, oui, c'est un public francophone, oui, c'est un public belgicain, mais c'est aussi, et je ne veux pas faire de la sociologie de comptoir, mais probablement l'électorat du MR ou des engagés, il ne devait pas y avoir beaucoup d'électeurs du PS dans la salle. Et donc, c'est aussi un public qui adhère au discours socio-économique de Bart De Wever. Et là, il y a eu une grosse différence aussi lors des dernières élections. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une majorité de francophones qui soutient cette majorité fédérale. Et donc forcément, si une partie des francophones qui est représentée majoritairement à la Chambre soutient ce gouvernement, il devient beaucoup plus difficile aussi de critiquer les positions socio-économiques qui sont celles de la NVA et de Bart De Wever, là où c'était peut-être plus facile au moment de la Suédoise, première expérience où la NVA est montée dans un gouvernement fédéral, et où là, il n'y avait qu'un seul parti francophone à la table, qui était minoritaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il dispose d'une majorité francophone à la Chambre. Et puis, il y a effectivement ce changement de Bart De Wever. Il a changé plusieurs fois au cours de sa carrière. Il y a eu des... Vous citiez le mot de « mu » tout à l'heure, et je crois que c'est le bon terme. Bart De Wever est capable de réinventer son personnage très régulièrement. Il y a eu le Bart De Wever que vous avez cité de strépitieux jusqu'en 2012, un Bart De Wever volontairement provocateur. Et puis, il y a un Bart De Wever après 2012 qui, là, change même physiquement, puisque c'est le moment où il maigrit très très fort. Il va utiliser d'ailleurs ce régime politiquement. Il devient bourgmestre d'Anvers à ce moment-là. C'est le Bart De Wever qui va accepter que son parti aille au fédéral lors de la Suédoise. Mais à ce moment-là, il y avait toujours cette ambiguïté par rapport au Vlaams Belang qui faisait très peur côté francophone. Et à la veille des élections, cette ambiguïté-là par rapport au Vlaams Belang, il la casse entièrement. Il dit en fait, moi idéalement, s'il y a moyen de me passer du Vlaams Belang, je le ferai. Et je pense que c'est ça la dernière mue de Bart De Wever. Le Bart De Wever d'aujourd'hui qui est devenu Premier ministre, qui endosse cette responsabilité, cette figure d'homme d'État, comme vous l'avez dit. Et ça, probablement que ça participe aussi au fait de rassurer les francophones.
Et puis, il y a un élément qu'évoquait Carole Verhoeven. On a un Premier ministre qui a du pouvoir dans le sens où c'est le chef de file du plus grand parti du pays, du plus grand parti forcément du coup de la coalition au fédéral. C'est un homme qui pèse, dans un moment en plus où le contexte international est extrêmement chahuté. On voit ce qui se passe notamment à propos des avoirs russes qui sont en Belgique. Et c'est le moment d'ailleurs où il est le plus applaudi quand il fait cette grande conférence et quand il s'exprime pour défendre les intérêts de la Belgique sur ce dossier des fonds russes. Ça doit jouer aussi. On a un homme fort qui décide dans un gouvernement relativement homogène après une législature un peu compliquée, chahutée, chaotique avec la Vivaldi aussi.
Il a effectivement une vraie légitimité, certainement en Flandre. Je pense que Bart De Wever a adopté une posture rationnel au lendemain des élections. Lorsqu'il dit la Flandre n'est pas un but en soi, et si je peux servir la Flandre à partir du fédéral, pourquoi ne pas le faire ? C'est cette posture rationnelle que cela incarne. Qu'est-ce qu'il se dit au lendemain des élections ? Un, je ne dois pas gouverner avec le Vlaams Belang. Ça n'est pas nécessaire puisque on ne forme pas de majorité côté flamand, donc ça ne sert à rien. Deux, je n'ai pas de majorité des deux tiers facile pour faire une réforme de l'État, puisqu'il aurait fallu associer le PS et l'Open VLD, qui sont à ce moment-là les grands perdants. Et trois, il se rend compte qu'il a en plus la possibilité de former un gouvernement avec les engagés et le MR, ce qui rend les choses beaucoup plus simples pour lui, parce que il va pouvoir mettre en œuvre plus facilement son programme socio-économique, qui est finalement le programme socio-économique que réclament les Flamands depuis de nombreuses années, et donc il va pouvoir servir cette Flandre depuis le fédéral, comme il l'a affirmé lors des grandes conférences catholiques.
Carol Verhoeven.
La relation avec Vlaams Belang est quand même très importante. Et juste la semaine passée, au VRT, il y a eu une émission importante là-dessus. Émission intitulée 5 ans. Donc, ils ont fait une interview avec Bart De Wever fin de 2020. Et on lui a demandé qu'est-ce qui va se passer dans les prochains 5 ans, avec vous, avec votre parti, avec Vlaams Belang. Et là, il a dit, moi je ne vais jamais gouverner avec Vlaams Belang. Je ne vais jamais faire une coalition avec Vlaams Belang à 2020. Donc il savait tout le temps, alors on l'a demandé, pourquoi vous avez attendu 5 ans jusqu'aux élections pour dire au public que vous n'allez pas faire ça. Et là, il avoue que dans la NVA, il y a des tendances différentes. Et là, on a toujours su que c'était le cas, que le NVA n'allait pas survivre une coalition avec Vlaams Belang. Cette partie allait se déchirer, sans doute. Mais pour lui, c'était un très grand soulagement que dans les élections de juin dernier, il a pu être le premier, le plus grand, battre le Vlaams Belang. Pour lui, c'est très important. C'est une mission historique pour lui aussi.
Ça, c'est super intéressant, effectivement. Donc, c'est que dans sa tête, selon vous, Bart De Wever a toujours pensé qu'il ne fallait pas et qu'il ne voulait pas faire une alliance avec le Vlaams Belang, mais que pour des intérêts même internes à la cohésion de son parti, il devait laisser planer le doute jusqu'à ce moment où il a pu vraiment clarifier la donne. Pour autant, maintenant, est-ce que Bart De Wever, selon vous, a tourné le dos au rêve d'une Flandre indépendante, d'une république flamande, demain, après-demain, plus tard dans l'histoire?
Avec Bart De Wever, il ne dit toujours jamais. C'est chameleon politique. Donc, si les circonstances changent, lui, il va changer. Mais il a bien changé. Le but, son but politique, le but de son parti, a fondamentalement changé. Il faut voir dans 4 ans quelles seront les circonstances et quelles seront les opportunités. Pour lui, il était dans encore à juin de l'année passée, il croyait en début de mai qu'il allait perdre les élections, que c'était fini, sa carrière politique au niveau national était finie, qu'il allait se retirer à Anvers. Il a trouvé des circonstances, de nouvelles circonstances, de nouvelles opportunités, et voilà, il est là, Premier ministre, menant un programme de réforme qui convient bien aux souhaits des Flamands.
Et c'est ça, évidemment, qui est l'enjeu. On a aujourd'hui, à la barre de la Belgique, un Premier ministre qui peut mener une politique qui convient aux attentes des Flamands. Maintenant, il a les manettes en main et les partenaires francophones pour pouvoir mener cette politique-là. Ceci dit, Baptiste Tupin, est-ce qu'il n'y a pas là, quand même, de manière plus larvée, une forme de possibilité pour lui de réformer l'État, non pas en faisant un grand pow-wow institutionnel, mais par certaines mesures économiques, socio-économiques qui sont prises.
Oui, alors, bon, déjà, il y a certaines mesures vraiment communautaires dans l'accord de gouvernement. Je pense à la suppression du Sénat, par exemple. Je pense aussi à un mécanisme que j'ai découvert ce matin, la suppression d'une sonnette d'alarme idéologique, un mécanisme de protection très ancien du fédéralisme belge et qui va probablement être supprimé. Et puis, il y a des réformes socio-économiques qui sont très favorables à la Flandre et qui le sont peut-être un peu moins à la Wallonie et à Bruxelles. Je pense singulièrement à la réforme des allocations de chômage. C'est une réforme qui était aussi souhaitée par le MR et les engagés, mais quand on regarde les chiffres, force est de constater que les Wallons seront plus touchés par cette réforme, les Bruxellois également. J'ai été revoir les chiffres, on estime qu'il y a 180 000 à 190 000 personnes qui vont être exclues du chômage. Là-dedans, il y a 90 000 Wallons, 40 000 Bruxellois et 60 000 Flamands. Mais quand on rapporte ça à la taille de la population, on se rend bien compte que la Flandre est moins touchée. Il y a une étude Il y a une étude de la FGTB qui a rapporté justement ce nombre de chômeurs à la taille des communes. Sur les 100 communes les plus touchées par cette réforme, 100 sont wallonnes et bruxelloises. Pour trouver la première commune après ça, c'est Anvers qui arrive à la 140e place de ce classement. Et si on prend les 250 communes les plus touchées, 225 sont wallonnes, 19 sont bruxelloises et seulement 6 sont flamandes. Avec ces chiffres-là, on se rend bien compte que la Flandre sera moins touchée. Or, on sait que les CPAS qui vont récupérer une partie de ces chômeurs exclus, ils ne sont pas entièrement compensés financièrement. Il y a donc là une vraie responsabilisation des régions, des communes par rapport à cet enjeu-là. C'est une forme de transfert d'argent de la Wallonie vers la Flandre, ou alors la fin plutôt d'un transfert de la Flandre vers la Wallonie. Or, ça fait partie du cœur du programme de la NVA.
Oui, Carole Verhoeven, c'est d'accord avec cette analyse?
Ben, c'est bien intéressant que dans son premier... Il a donné deux interviews au début de son gouvernement, l'année passée, francophone, irlandophone. Et dans l'interview irlandophone, il a admis que cette réforme est une réforme communautaire, c'est une mesure communautaire.
Il n'a pas dit côté francophone, ça, justement.
Intéressant, non, pas côté francophone. Il ne l'a pas répété après. Donc, il a bien compris que ce n'est pas la manière de mener un gouvernement. Maintenant, dans l'accord du gouvernement il y a deux semaines, il y avait cette mesure de gaz, par exemple, qui était moins favorable pour Bruxelles, pour la Flandre. Il y a certaines femmes politiques qui ont dit, ouais, c'est communautaire. Lui,
Maintenant, il ne le présente plus dans son discours. Voilà. Il y a quand même des propos sur lesquels il a été assez clair, et ça a pu surprendre, en particulier côté francophone. C'est sur sa relation avec les Pays-Bas, son orangisme, comme on l'appelle. Et ça, on va l'explorer tout de suite en compagnie de Sarah Pousset.
La fascination de Bart De Wever pour les Pays-Bas n'est pas nouvelle. Au début des années 90, il avait déjà participé à l'organisation d'un congrès sur les Grands Pays-Bas pour discuter d'un rattachement de la Belgique. Depuis, il s'est aussi exprimé à plusieurs reprises dans les médias à ce sujet. Au magazine Trends Tendance, il avait par exemple expliqué en 2021 qu'il était marié à une Néerlandaise et que son rêve serait de reproduire cette union mixte à l'échelle du pays. En concluant, je cite, « Si je pouvais mourir en tant que Néerlandais du Sud, je mourrais plus heureux qu'en tant que Belge. » Le ton est donné. Bart De Wever y voit aussi des avantages économiques. Il rêve par exemple d'une fusion entre les ports de Rotterdam et d'Anvers pour en faire une grande porte d'entrée pour le nord de l'Europe. Ses propos, il les a tenus avant d'entrer au 16 rue de la Loi. Mais comme il l'a expliqué en juin à la chaîne hollandaise NPO, la fonction ne change pas ses convictions.
Je ne changerai jamais de conviction. J'ai seulement changé de fonction. Et je dois donc faire attention à ce que je dis. En tant que Premier ministre, je ne peux plus m'exprimer de la sorte. Mais en tant qu'homme politique, je pense toujours que la scission des Pays-Bas au XVIe siècle est la plus grande catastrophe qui nous soit arrivée.
Cette déclaration, il l'a accompagnée d'une autre preuve de son orangisme, laissée cette fois dans le livre d'or de la famille royale néerlandaise. Le Premier ministre belge a en effet cité un auteur flamingant. Ici et là, ce sont les Pays-Bas. Une phrase qui est aussi utilisée par Voorpost, un groupe d'action nationaliste d'extrême droite qui revendique l'union des Pays-Bas, de la France et de l'Afrique du Sud.
Baptiste Tupin, comment est-ce qu'on peut expliquer ce positionnement orangiste de Bardo Wever qui peut surprendre? Parce que là, on ne parle pas d'indépendance de la Flandre, pour le coup.
Alors, je pense que cet orangisme, c'est aussi une posture intellectuelle qui est assez fréquente au sein du mouvement flamand traditionnel. Maintenant, c'est sans doute un sujet sur lequel Karel Verhoeven pourra mieux s'exprimer, mais la volonté de Bardo Wever aujourd'hui, c'est de tenter de dire que le nationalisme a changé. Il veut montrer un nationalisme plus mature, un nationalisme plus centré sur l'économie. Et pour moi, cet orangisme qu'il affiche volontiers, ça reste le seul paradoxe par rapport à cette volonté de montrer...
Un dégage donné peut-être à une vision plus romantique ou historique.
Exactement. Et donc, c'est à travers cet orangisme que je vois un paradoxe important dans le personnage de Bardo Wever. Mais il me semble que c'est une posture qui n'est pas nécessairement le signe d'un nationalisme radical. Mais peut-être que
je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est l'historien Bardo Wever qui parle ici. C'est le bourgmestre d'Anvers aussi qui parle ici.
Très orangiste, les Anversois.
Voilà. Et c'était le grand âge, l'âge d'or de l'Anvers, qui a été cassé. Donc, c'est plutôt un désir intellectuel plutôt que politique. En termes réels, il n'y a pas de partenaire aux Pays-Bas. Il n'y a personne.
Il n'y a pas de projet politique pour reconstruire les grands Pays-Bas.
Il
n'y
a pas
Pays-Bas.
De partenaire aux Pays-Bas pour discuter. Là, ils disent, mais c'est quoi ce rêve orangiste en Amsterdam? Ils ne savent pas ce qu'ils entendent. Donc, c'est plutôt un désir européen aussi. Il a refait cet orangisme dans Benelux, le rêve du Benelux.
C'est un peu les Bourguignons aussi, quelque part, reconstruire le royaume des ducs de Bourgogne.
Bourgogne, mais Benelux en termes de powerhouse européen. C'est le nœud central de l'Europe. Et pourquoi ne travailler pas ensemble? C'est alors Anvers en termes de port avec Rotterdam. Et on a cet axe économique, culturel ensemble.
Ce qui transparaît, en tout cas, de ces analyses croisées, c'est que Bardo Wever est un animal politique à la fois très doué et très difficile à déchiffrer, qui a connu plusieurs mues pour épouser des circonstances politiques qui évoluent, mais sans jamais renier son ADN politique originel forgé dans le nationalisme flamand. Alors, Bardo Wever sera-t-il un nouveau Jean-Luc Dehaene, un homme d'État pour la Belgique? Ou bien n'est-ce qu'une phase transitoire parce qu'aujourd'hui, la Belgique est le meilleur véhicule qu'il a trouvé pour servir les intérêts des Flamands. L'avenir le dira sans doute. En attendant, on a essayé de vous donner quelques clés pour vous faire votre propre opinion sur le sujet. Merci à Karel Verhoeven, rédacteur en chef du Standard, dont on rappellera cette belle initiative de proposer désormais chaque jour en ligne une sélection d'articles du quotidien en français. Merci à Baptiste Tupin de la RTBF, à Guillaume de Smet pour la réalisation sonore de cet épisode. À la préparation, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous.